Wilkie Collins, La femme des rêves. Mystère en quatre récits. Personnage du mystère. Francis Raven, garçon d'écurie. Madame Raven, sa mère. Madame Chance, sa tante. Percy Fairbanks, son maître. Madame Fairbanks, sa maîtresse. Joseph Rigobert, son camarade d'écurie. Arliss Warlock, sa femme. La scène se passe de nos jours, moitié en France, moitié en Angleterre. Premier récit. Exposé des fêtes par Percy Fairbanks.
Hola! Oh, garçon! Hola!
Cher, pourquoi ne sonnez-vous pas la cloche?
J'ai cherché, il n'y en a pas.
Et personne dans la cour, c'est vraiment extraordinaire. Appelez encore, cher.
Garçon! Hola! Oh! Garçon!
Mon second appel retentit dans le vide et ne réveille personne. En un mot, il ne produit aucun résultat. Je suis à bout de ressources. Je ne sais plus que dire ni que faire maintenant. Me voici dans la cour solitaire de l'auberge d'une étrange ville, obligé de tenir par l'abri de deux chevaux et de veiller sur une dame. Et, pour surcroît d'embarras, il se trouve que l'un des chevaux est estropié au point d'être mis hors de service et que la dame est ma femme.
« Mais qui suis-je, demanderez-vous ? »
J'ai tout le temps de répondre à cette question. Le silence continue et personne ne se présente pour nous recevoir. Permettez-moi de me présenter moi-même et de vous présenter ma femme. Je m'appelle Percy Fairbanks, gentilhomme anglais, âgé d'une quarantaine d'années, sans profession, s'occupant peu de politique, de taille moyenne, de teint agréable, facile de caractère, abondamment pourvu d'espèces. Ma femme est française. Elle s'appelait Mademoiselle Clotilde Delorge quand je fus présenté à elle et à son père en France. J'en devins amoureux. Je ne sais réellement trop pourquoi. C'est peut-être parce que j'étais tout à fait oisif et n'avais rien de mieux à faire en ce temps-là. Ou bien est-ce peut-être parce que tous mes amis disaient qu'elle était la dernière femme que je dusse songer à épouser. Extérieurement, je dois avouer qu'il n'y avait rien de commun entre Madame Fairbanks et moi. Elle est grande, elle est brune, elle est nerveuse, irritable, romanesque, elle pousse toutes ses opinions à l'extrême. Qu'est-ce qu'une telle femme a pu voir d'attrayant en moi? Qu'ai-je pu trouver d'attrayant en elle? Je ne le sais pas plus que vous ne le savez vous-même. Toujours est-il que nous nous convêmes l'un à l'autre d'une façon en quelque sorte mystérieuse. Voilà 10 ans que nous sommes mariés et notre seul regret est de n'avoir point d'enfants. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais j'appelle cela, après tout, un heureux mariage. Voilà pour ce qui nous concerne. La question qu'on peut m'adresser maintenant est celle-ci. Qu'est-ce qui m'a amené dans la cour de cette auberge et pourquoi me trouvais-je obligé de remplir les fonctions de groom et de garder 2 chevaux ? Nous passons la plus grande partie de notre temps en France, dans la maison de campagne où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ma femme et moi. De temps à autre, pour jeter quelques variétés dans notre existence, nous allons visiter mes amis en Angleterre. En ce moment, nous faisons une de ces visites. Notre hôte est un de mes anciens camarades de collège, propriétaire d'un beau domaine dans le comté de Somerset, et nous sommes arrivés dans sa résidence appelée Farleigh vers la fin de la saison des chasses. Le jour dont je parle, et qui est destiné à faire époque dans ma vie, les chiens avaient été amenés à Farleigh. Madame Fairbanks et moi, nous montions les 2 meilleurs chevaux des écuries de mon ami. Nous étions parfaitement indignes de cette distinction, car nous n'entendons rien en fait de chasse et nous nous soucions peu d'y rien entendre. De notre côté, nous aimons à courir à cheval et à respirer la brise du matin, pendant que nous contemplons avec ravissement les paysages qui nous environnent de tous les côtés dans cette belle et fertile Angleterre. Tant que la chasse a été heureuse, nous l'avons suivie. Mais quand sont survenus de fâcheux accidents, quand le temps s'est écoulé sans profit et que notre patience a été mise à l'épreuve, quand les chiens ont perdu la piste et couru çà et là, et que les chasseurs exaspérés se sont laissés aller à proférer de grossiers jurons, nous avons cessé de nous intéresser à leur succès. Nous avons tourné la tête de nos chevaux dans la direction d'un vert sentier, délicieusement ombragé par des arbres feuillus,
Nous avons trotté gaiement le long de ce sentier et nous nous sommes trouvés dans un champ ouvert que nous avons traversé au galop. Puis nous avons suivi les sinuosités d'un second sentier, traversé un ruisseau, ensuite un village, d'où nous avons débouché dans une solitude pittoresque entourée de collines. Les chevaux secouent la tête et hennissent en se regardant l'un l'autre. Ils semblent trouver dans cette promenade autant de plaisir que nous. La chasse est oubliée. Nous sommes aussi heureux que des enfants et nous nous mettons à chanter une chanson française quand, tout à coup, adieu notre gaieté. Le cheval de ma femme heurte de l'un de ses pieds de devant contre une pierre et bute. La main prompte de celle qui le montait le préserve d'une chute complète. Mais au premier effort qu'il veut faire pour reprendre sa course, la triste vérité est découverte, le cheval s'est foulé un tendon et boite. Que faire ? Nous sommes étrangers et égarés dans un endroit solitaire du pays. Nous avons beau regarder autour de nous, nous n'apercevons aucun indice d'habitation humaine. Nous ne voyons d'autre parti à prendre que de franchir une colline voisine en suivant un chemin accessible aux chevaux et d'aller voir ce qu'on peut découvrir de l'autre côté. Je mets la selle de ma femme sur mon propre cheval, j'y fais monter ma femme. Il n'a pas l'habitude d'être monté par une femme. Il ne sent plus sur ses flancs la pression ordinaire des jambes d'un cavalier. Il se secoue, se jette de côté et d'autre et fait voler la poussière autour de lui. Je le suis à une distance respectueuse de ses fers en conduisant le cheval boiteux par la bride. Y a-t-il quelque chose de plus triste à voir qu'un cheval qui boite ? Je n'ai jamais encore vu un cheval boiteux qui ne m'ait semblé considérer d'un cœur brisé son infortune. Pendant une demi-heure, ma femme eut à subir les soubresauts et les courbettes de sa monture sur le sentier qu'elle suivait en traversant la colline. Je marchais derrière elle et le cheval estropié marchait derrière moi. Non loin du point culminant de la colline, nous passons près d'un paysan qui travaille dans un champ voisin de la route. Je l'appelle pour qu'il vienne à nous. Il me regarde d'un air hébété, mais il ne bouge pas. Je lui demande alors, en criant de toutes mes forces, à quelle distance nous sommes de Farley. Il me répond du même ton dans son patois. « À 14 000, donnez-moi une lampée de cidre. » C'est la récompense qu'il demande pour son renseignement. « Voilà le paysan du comté de Somerset, peint par lui-même, » dis-je à ma femme. « C'est un trait de caractère, un véritable trait de caractère. » Madame Fairbanks ne partageait pas mon goût pour l'étude de la nature humaine telle qu'elle se présente dans nos campagnes. Son cheval, d'ailleurs, ne cessant de s'agiter, ne lui laissait pas un moment de repos et elle commençait à perdre patience. « Nous ne pouvons faire 14 000 de cette façon, » dit-elle. « Demandez à cette brute de paysan où se trouve la plus prochaine auberge. » Je tirai un shilling de ma poche et le montrai au paysan en le faisant briller au soleil par-dessus ma tête. Cette vue produisit un effet magnétique. Elle fit sortir le paysan de sa quiétude, il quitta son champ et s'avança lentement vers moi. Je l'informai que nous voulions laisser nos chevaux dans une auberge et y louer une voiture qui nous ramena à Farley. Où pourrions-nous trouver cette auberge ? Le paysan répondit, sans cesser de regarder le shilling.
« À Underbridge, pour sûr. » « Y a-t-il loin d'ici à Underbridge ?»
Le paysan répéta ma question en riant d'un gros rire. « Évidemment, Underbridge est près d'ici, pensais-je. Le tout est de le trouver. »«
Voulez-vous nous en indiquer le chemin, mon brave ?»«
Voulez-vous me donner un verre de cidre ?» me répondit-il dans son patois. Je lui fis un signe poli de la tête en lui montrant le shilling. L'instinct du russe l'emporta. Il vint avec nous. Ma femme est d'une grande beauté, mais il ne leva pas une seule fois les yeux sur elle, et, ce qui est plus extraordinaire, il ne regarda pas même les chevaux. Ses yeux étaient où était son âme, et son âme était tout entière fixée sur le shilling. Nous atteignîmes le sommet de la colline et nous vîmes, au fond de la vallée où nous allions descendre, le but de notre pèlerinage, la ville d'Underbridge. Aussitôt, notre guide réclama son shilling et nous laissa trouver notre auberge comme nous pourrions. Je suis poli de ma nature. Je lui dis bonjour en le quittant. Il me regarda en mettant mon shilling entre ses dents pour s'assurer qu'il était bon et me rendit mon adieu dans son patois d'un air sauvage. Puis il nous tourna le dos comme si nous l'avions offensé. Curieux produit de la civilisation que cette bête brute. Si je n'avais pas vu un clocher à Underbridge, j'aurais supposé que nous étions égarés dans une île sauvage. En arrivant à la ville, il ne nous fut pas difficile de trouver l'auberge que nous cherchions. La ville n'a qu'une rue déserte et, au milieu de cette rue, s'élève l'auberge, ancien édifice en mauvais état. L'enseigne en est effacée. Les contrevents des fenêtres de la façade sont tous fermés. Un coq et ses poules sont les seules créatures vivantes qui se montrent sous le portail. Certainement, cette auberge, qui date du temps des diligences, est l'une de celles qu'ont ruiné les chemins de fer. Nous passons sous la voûte de la porte ouverte et ne trouvons personne pour nous recevoir. Nous pénétrons dans la cour des écuries, j'aide ma femme à descendre de cheval et nous nous trouvons dans la position que j'ai décrite au début de ce récit. Pas de cloche que nous puissions sonner, pas un être humain qui réponde à mon appel. Tandis que je reste là, de piqué, tenant les brides des chevaux et contrarié de ne voir paraître personne, Madame Fairbank va gaiement à la découverte dans la cour qu'elle arpente de long en large et fait ce que font toutes les femmes quand elles se trouvent dans un endroit qui ne leur est pas connu. Elle ouvre toutes les portes devant lesquelles elle passe et jette un coup d'œil dans l'intérieur. De mon côté, j'y repris haleine. Je suis sur le point d'appeler pour la troisième et dernière fois le garçon d'écurie quand j'entends Madame Fairbank s'écrier soudainement « Percy, venez ici !» Le son de sa voix indique l'agitation qu'elle éprouve. Elle a ouvert une dernière porte au fond de la cour et a reculé en tressaillant à la vue d'un objet qui a frappé ses yeux. J'attache les brides des chevaux à un vieux clou rouillé fiché dans le mur près de moi et cours rejoindre ma femme. Elle est devenue pâle et me saisit nerveusement le bras. « Bon Dieu » s'écrie-t-elle, « regardez donc !» Je regarde et que vois-je? Je vois une petite écurie sombre contenant deux stalles. Dans l'une, un cheval est en train de mâcher sa provende, dans l'autre, un homme sommeille couché sur la litière. C'est un homme usé, fatigué, qui semble dévoré par le chagrin. Il est vêtu comme un garçon d'écurie. Ses joues creuses et ridées, ses cheveux rares et grisonnants, sa peau sèche et tannée racontent la triste histoire de ses douleurs et de ses souffrances. Ses sourcils froncés donnent un air sinistre à sa physionomie. Une contraction nerveuse et pénible se fait remarquer à l'un des coins de sa bouche. Il respirait convulsivement au moment où je jetais les yeux sur lui. Il frissonne et soupire dans son sommeil. Sa vue me fait mal et je me détourne pour jouir de la clarté du soleil qui brille dans la cour. Ma femme me ramène à lui malgré moi. « Attendez, attendez, il peut recommencer. »« Recommencer quoi ?»« Il parlait dans son sommeil, Percy, quand je l'ai vu pour la première fois. Il rêvait quelques rêves terribles. »« Chut, il recommence. » Je le regarde et j'écoute. Il s'agite sur son misérable lit. Il parle, ou plutôt, il murmure entre ses dents serrées, ses mots rapides. « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Meurtre !» Il y a un intervalle de silence. Il meut lentement un bras maigre jusqu'à ce qu'il ait amené sur son cou. Il frissonne et se retourne sur sa paille. Il soulève son bras et l'étend un peu. Sa main semble s'efforcer de saisir l'extrémité de quelque chose. Je vois ses lèvres recommencer à se remuer. J'entre doucement dans l'écurie, ma femme me suit en tenant ma main fortement serrée dans la sienne. Nous nous penchons tous deux sur lui. Il se remet à parler dans son sommeil et dit cette fois des choses étranges, sans suite. Des yeux gris clair et une larme dans la paupière gauche, l'entendons-nous murmurer. Des cheveux blonds avec une bande d'un jaune d'or. C'est bien, mère! De beaux bras blancs couverts d'un léger duvet, une petite main de femme avec les ongles entourés d'un limbe rougeâtre. Le maudit couteau, d'abord sur un côté, ensuite sur l'autre. Ah, diable de femme, où est le couteau? Il se tait et s'agite tout à coup. Nous le voyons se débattre sur la paille. Il lève ses mains en l'air et fait des efforts pour respirer. Ses yeux s'ouvrent tout à coup. Pendant un moment, il semble ne rien regarder et brille d'un éclat sans expression. Ensuite, il se referme et retombe dans un profond sommeil. Rêve-t-il encore? Oui, Mais son rêve semble avoir pris une nouvelle direction et quand il se remet à parler, le ton de sa voix n'est plus le même. Ses paroles sont peu nombreuses, tristes, et il les répète à plusieurs reprises comme s'il implorait quelqu'un.
« Dites que vous m'aimez! Je vous aime si passionnément! Dites que vous m'aimez! Dites que vous m'aimez !»
Il tombe dans un sommeil de plus en plus profond tout en répétant faiblement ces mots. Il meurt sur ses lèvres, il ne parle plus. Ma femme a cependant triomphé de son effroi. Ce malheureux sur la paille avait touché les fibres sensibles de son cœur. Dans son insatiable passion pour les romans, elle voulait en savoir davantage de celui qu'elle entrevoyait dans les mots sans suite de ce rêve. Elle me secoua avec impatience le bras.
« Entendez-vous, Percy, il y a une femme là-dedans. Il y a de l'amour, un meurtre là-dedans, Percy. Où sont les gens de l'auberge? Allez dans la cour et appelez de nouveau. »
Ma femme appartient par sa mère au Midi de la France. Le Midi de la France produit des femmes remarquables par leur beauté et la chaleur de leur tempérament. Je n'en dis pas plus. Les hommes mariés comprendront ma position. Les célibataires ont besoin qu'on leur dise qu'il y a des occasions où nous devons non seulement aimer et honorer notre femme, mais encore lui obéir. Je me tourne vers la porte de l'écurie pour obéir à ma femme et me trouve en face d'un étranger qui examine ce que nous faisons là. Cet étranger est un petit vieillard à face endormie et vermeille, à la tête chauve. Il porte des culottes et des guêtres de drap gris et un vénérable habit noir de vieille date à queue carrée. Je devine d'instinct que c'est le maître de l'auberge. « Serviteur, monsieur, dit le petit vieillard, je suis un peu dur d'oreille. Est-ce vous qui avez appelé, il y a un moment, dans la cour ?» Avant que je puisse répondre, ma femme intervient. Elle insiste d'une voix aiguë, réclamée par la surdité de notre hôte, pour savoir quel est le malheureux qui dort là, sur la paille. « D'où vient-il? Pourquoi des choses effrayantes se présentent-elles à lui dans son sommeil? Est-il marié ou célibataire? Est-il jamais devenu amoureux d'une femme coupable de meurtre? Quelle espèce de femme était-ce? Lui a-t-elle jamais donné un coup de poignard? En un mot, cher hôte, dites-moi toute son histoire. » Le cher hôte attendit d'un air insouciant que Madame Fairbank eût entièrement fini. Alors, il lui répondit en ces termes « Son nom est Francis Raven. C'est un méthodiste indépendant. Il est dans sa 46e année et me sert comme garçon d'écurie. Voilà son histoire. » Le caractère ardent de ma femme se manifeste par le coup de pied qu'elle donne sur le sol de l'écurie. L'hôte se retourne nonchalamment et laisse tomber son regard sur les chevaux. « Voilà une paire de belles bêtes dans la cour. Est-ce que vous voulez les mettre dans mon écurie ?» Je répondis par un signe de tête affirmatif. L'hôte, porté à se rendre agréable à ma femme, s'adresse à elle de nouveau. « Je vais réveiller Francis Raven. C'est un méthodiste indépendant. Il est dans sa 46e année et me sert comme garçon d'écurie. Voilà son histoire. » Nous ayant donné cette seconde édition de son intéressant récit, il entra dans l'écurie. Nous l'y suivîmes pour voir comment il allait s'y prendre pour réveiller Francis Raven et ce qui arriverait ensuite. Un balai était dans un coin. L'hôte le prend, s'approche du garçon d'écurie et le réveille froidement à coups de balai, comme s'il avait affaire à une bête fauve dans sa cage. Francis Raven saute d'un bond sur ses pieds en poussant un cri de terreur, nous regarde d'un air sauvage qui exprime la défiance. Mais il recouvre bientôt son empire sur lui-même et prend soudain le ton décent d'un domestique de bonne maison. « Je vous demande pardon, madame, je vous demande pardon, monsieur. » Le ton et la manière dont il s'excuse sont l'un et l'autre au-dessus de son rang apparent. Je commence à partager la sympathie qu'il inspire à madame Fairbank. Nous le suivons dans la cour pour voir quel soin il va prendre des chevaux. La façon dont il lève la jambe blessée du cheval boiteux me dit du premier coup qu'il entend son métier. Il conduit sans tarder et tranquillement les deux bêtes dans une écurie vide. Il va sans tarder et tranquillement chercher un seau plein d'eau chaude et y baigne la jambe du cheval boiteux. « L'eau chaude fera disparaître l'enflure, monsieur. Je banderai ensuite sa jambe. » Tout ce qu'il fait, il le fait avec intelligence. Tout ce qu'il dit, il le dit à propos. Rien de désordonné, rien d'étrange ne se laisse voir en lui. Est-ce le même homme que nous avons entendu parler en songe? Le même homme qui s'éveilla en poussant ce cri de terreur que nous avons entendu, en jetant sur nous ce regard soupçonneux que nous avons surpris dans ses yeux? Je me détermine à lui faire subir l'épreuve d'une ou deux questions. « Il n'y a pas grand-chose à faire ici, » dis-je au garçon d'écurie. « Bien peu de choses, monsieur, » répond-il. « Personne dans la maison ?»« Absolument personne, monsieur. » »« Je pensais que vous étiez tous morts. Je n'ai pu me faire entendre de personne. » « Le maître de l'auberge est très sourd, monsieur, et le domestique est allé en commission. »« Oui, et vous, vous dormiez profondément dans l'écurie. Faites-vous toujours ainsi un somme en plein jour ?» La figure usée du garçon d'écurie se colore légèrement. Ses yeux se détournent des miens pour la première fois. Madame Fairbanks me pince furtivement le bras. « Sommes-nous sur le point de faire une découverte ?» Je répète ma question. Le garçon d'écurie ne peut, sous peine d'impolitesse, se dispenser de me répondre. Il fait en ces termes. « J'étais extrêmement fatigué, monsieur. Vous ne m'auriez pas trouvé endormi, n'eût été cette circonstance. » « Entièrement fatigué, dites-vous, vous aviez travaillé dur, je suppose, pendant le jour ?»« Non, monsieur. Qu'est-ce qui vous avait donc fatigué de la sorte ?» Il hésite encore et répond à regret. « J'étais resté sur pied toute la nuit. »« Sur pied toute la nuit ? Était-il arrivé quelque chose dans la ville ?»« Rien, monsieur. Quelqu'un était-il malade ?»« Personne, monsieur. » Cette réplique est la dernière que je puisse en obtenir. Quelque effort que je fasse, il m'est impossible d'arracher de sa bouche un mot de plus. Il se retourne et s'occupe de panser la jambe du cheval. Je quitte l'écurie pour parler à l'hôte de la voiture qui doit nous ramener à Fairleigh. Madame Fairbanks reste près du garçon d'écurie et m'accorde la faveur d'un regard quand je m'éloigne d'elle. Ce regard me dit clairement « Je veux découvrir pourquoi il est resté sur pied toute la nuit. Laissez-moi essayer. » Les ordres donnés pour obtenir une voiture sont aisément exécutés. L'auberge possède une carriole et un cheval. Le maître de l'auberge a une histoire à raconter pour le cheval et une histoire pour la carriole. Elles ressemblent l'une et l'autre à celle de Francis Raven, avec cette différence que ni le quadrupède ni le véhicule n'appartiennent à aucune religion. Le cheval aura 9 ans révolus le jour prochain de sa naissance. J'ai la carriole depuis 24 ans. M. Max Underbridge a élevé le cheval et M. Pouley a construit la carriole. Le cheval et la carriole sont à moi et je viens d'en dire l'histoire. » Après avoir soulagé son esprit par le récit de ces détails, l'aubergiste s'occupe à harnacher le cheval. Pour lui venir en aide, je traîne la carriole dans la cour. Juste au moment où nos préparatifs sont terminés, Mme Fairbanks paraît et le garçon d'écurie ne tarde pas à la suivre. Il a bandé la jambe du cheval et il est prêt à nous conduire à Fairleigh. J'observe sur son visage et dans ses manières des signes d'agitation qui me donnent à penser que ma femme a su gagner sa confiance. « Eh bien, avez-vous découvert pourquoi Francis Raven a veillé toute la nuit ?» Mais Mme Fairbanks a le goût des effets dramatiques. Au lieu de me répondre simplement par oui ou par non, elle se plaît à suspendre l'intérêt et à exciter la curiosité de son auditoire en faisant une question à son tour. « Quel est le 1er du mois, cher ami ?»«
Le 1er mars. »«
Le 1er mars, Percy, est le jour de naissance de Francis Raven. » J'essaie de paraître satisfait de cette réponse, mais je n'y réussis pas. Francis est né, continue gravement Madame Fairbanks, à 2 heures du matin. Je commence à me demander avec surprise si l'intelligence de ma femme emboîte le pas à l'intelligence de l'aubergiste.
Est-ce tout ? Dis-je.
Ce n'est pas tout, répond Madame Fairbanks. Francis Raven veille la nuit qui précède son jour de naissance parce qu'il a peur de se coucher cette nuit-là.
Et pourquoi a-t-il peur de se coucher ?
Parce que sa vie court un danger.
Le jour de sa naissance ?
Le jour de sa naissance, à 2 heures du matin, aussi régulièrement que ce jour revient chaque année. Là, elle s'arrête. N'a-t-elle rien découvert de plus ? Rien de plus jusqu'ici. Je commence à me sentir véritablement intéressée en ce moment. Je lui demande vivement ce que cela signifie.
Madame Fairbanks m'indique mystérieusement la carriole et Francis Raven, jusque-là pour nous, garçons d'écurie, maintenant notre cocher. Il attend que nous soyons prêts à partir. La carriole a un siège pour deux personnes sur le devant et un autre siège pour une seule personne sur le derrière. Ma femme me lance un nouveau coup d'œil d'avertissement et prend place sur le siège de devant. La conséquence nécessaire de cet arrangement, c'est que Madame Fairbanks se trouve assise à côté du conducteur pendant un voyage de plus de 2 heures. Ai-je besoin de dire ce qui en est résulté ? Ce serait faire injure à votre intelligence. Permettez-moi de vous offrir ma propre place dans la carriole et laissez Francis Raven vous raconter sa terrible histoire en même temps qu'il nous la raconte ainsi que vous l'allez voir. »